Vous écoutez
RMC.
Edgar, le Real Madrid, énorme Oula. Chantier printanier, énorme chantier estival. Qui va partir? Qui doit partir? Qui doit venir également? Là, on part sur 3 mois de spéculation, mais également d'information sur le mercato prochain, sur la direction également. Il y a une colère immense. Ça y est, hein, c'est acté. Deuxième saison blanche pour le Real Madrid. Ça arrive extrêmement rarement dans l'histoire de ce club. Par où doit commencer, selon toi, le ménage du Real Madrid? Mon cher Edgar.
Pour moi, la priorité absolue, à l'instant T et dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est de remettre l'autorité et l'intérêt du club au centre de tout. Mmh. Mais de tout. Donc, parce que en fait, il faut faire en sorte
ça veut
que
dire
tout
quoi,
le monde.
Complètement ça.
Mais il faut faire en sorte une nouvelle fois que tout le monde ait le même intérêt, le même objectif, c'est-à-dire celui du club. Parce que aujourd'hui, quand tu regardes tous les problèmes qu'il y a eu cette saison, tu peux tous les ramener un petit peu à la même chose. Pourquoi tu as des joueurs qui essayent de faire virer un coach? Parce que ils mettent leur intérêt personnel devant celui de l'équipe. Parce que un tel estime qu'il sort trop pendant les matchs et l'autre n'aime pas jouer latéral droit. Donc ils mettent leur intérêt avant. Pourquoi t'as autant de fuites dans le vestiaire? Parce que tous et tous leurs entourages veulent mettre en avant tel intérêt, plutôt que l'intérêt de l'équipe de manière générale. Pourquoi t'as des communications qui sont catastrophiques? Par exemple, des joueurs, je suis désolé, mais des joueurs qui gagnent un match pourri sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone et qui viennent fanfaronner sur les réseaux sociaux comme si c'était incroyable. Ça, c'est parce qu'ils veulent montrer, regardez, c'est bon, j'ai été performant, mais on s'en fiche que t'aies été performant, étant donné que l'équipe est largement menée et surclassée en Liga, donc cette victoire n'apporte rien. Pareil pour les fautes de communication de Kylian Mbappé. En fait, tout ça, ça revient à la même chose. C'est, il faut placer l'équipe et le club au centre de tout
c'est
ça.
C'est la faute de qui, si on en est là aujourd'hui?
C'est,
vraiment,
première,
c'est Florentino.
C'est la faute de la direction, premièrement.
D'autorité.
Donc il y a un manque d'autorité de la direction. Ça, il faut la ramener tout de suite.
Ce qu'on dit, souvent des passes droits à certains qu'il accorde et aucun à d'autres Florentino Pérez quoi, la politique de la star absolue
ouais.
Quoi
il faut
ça
remettre
a toujours été comme ça
l'autorité ouais, pourtant, non, mais, il a toujours fait ça mais ça tenait quoi sur un entraîneur aussi
il faut remettre l'autorité dans la direction et évidemment que le comportement des joueurs et de manière générale celui qui va incarner l'autorité du club au quotidien c'est l'entraîneur donc je pense que l'entraîneur dans quasiment je pense que sans entraîneur, tu peux avoir des mauvais joueurs. Si t'as quelques mauvais joueurs, ça passe. Si t'as un mauvais entraîneur, ça passe pas. Donc, Arbeloa, je dis pas que ce serait un mauvais entraîneur toute sa carrière, mais là, il était pas prêt. C'est pas possible. T'aurais jamais pu avoir des résultats avec cet entraîneur-là. Aujourd'hui, il faut choisir le bon entraîneur qui va faire le ménage, qui va dire les bonnes choses aux joueurs et il faut, après, donc priorité numéro 1, la direction, rétablir l'autorité. Priorité numéro 2, choisir le bon coach qui va rétablir de l'autorité tous les jours, au quotidien, et surtout de l'exigence, c'est surtout ça, de l'exigence chez les joueurs. Et la dernière priorité, mais elle n'est pas forcément moins importante, c'est de faire le tri. Et il y a des joueurs aujourd'hui qui ne doivent plus rejouer pour le Real Madrid. Et j'aurais jamais cru dire ça en début de saison. Alors, mais aujourd'hui,
tu penses à qui ?
Un joueur comme Federico Valverde doit partir.
Waouh.
Federico Valverde, aujourd'hui, t'es vice-capitaine du club, t'as le brassard et t'es mêlé dans des histoires comme ça avec d'autres cadres du vestiaire, t'es mêlé dans des prises de bec, dans des tensions, t'as voulu faire virer ton premier coach. Valverde, très bien, il a fait une carrière incroyable au Real Madrid, il a même cette saison fait de belles choses, mais
c'est un mec qui a beaucoup donné pour le Real quand même, c'est tu vois, là t'es en train de déboulonner une statuette du Real.
C'est un mec qui a énormément donné pour le Real et cette saison-là n'enlève pas tout ce qu'il a fait par le passé, mais il faut passer un message que ce genre de comportement, essayer de chercher des contacts avec ton coéquipier à l'entraînement parce que t'es pas content contre lui, c'est pas possible dans un club comme le Real Madrid et dans n'importe quel club. Et vouloir virer ton club, ton coach, c'est pas possible. Râler et laisser fuiter des choses comme quoi t'es pas content de ton poste, c'est pas possible. Ça fait énormément de choses. Et aujourd'hui, Valverde, en tant que leader, il fait pas l'unanimité au sein du groupe et la direction doit faire passer le message que ce genre de comportement-là n'est plus possible.
Alors, c'est ton avis ou c'est un avis partagé quand même par les socios du Real, ça?
Je pense qu'aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a de la colère, autant de colère, enfin, de la colère contre Valverde après ce qui s'est passé notamment et quelques épisodes dans la saison? J'ai l'impression que Tchouaméni est absous de tout, en fait, lui, en revanche.
Bah, Aurélien Tchouaméni,
c'est un premier écart, certes. Ouais,
Aurélien Tchouaméni, son attitude, elle a toujours été nickel cette saison. Et effectivement, il a évidemment sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé et dans cette altercation-là. Mais très honnêtement, et vous pouvez reprendre tous les récits qui ont été faits dans toute la presse espagnole, Valverde a une énorme part de responsabilité. Et surtout, je le répète, c'est l'un des capitaines du Real Madrid. C'est celui qui a le plus porté le brassard cette saison. Comment tu veux avoir un capitaine qui veut virer un coach et qui a des altercations avec des coéquipiers? C'est pas possible. Et c'est injuste pour lui, quelque part, que son nom soit l'un des premiers à revenir sur la table, parce que t'as d'autres joueurs qui ont eu beaucoup plus de problèmes de comportement sur plusieurs années, parce que t'as d'autres joueurs aujourd'hui qui sont peut-être plus responsables sur la saison en termes de niveau, qui sont moins bons, qui sont moins performants.
C'est ça, ouais.
Mais sortir Valverde, c'est un message que tu passes, et tous les autres, ils vont se dire, ah ouais, ok. Même si Valverde peut être viré, alors moi, évidemment que je peux être viré, parce que Valverde, c'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid sur les dernières saisons, et
même s'il y a une inconstance cette saison, effectivement, parce que vous n'étiez pas d'accord avec ces deux coachs, en l'occurrence surtout Xabi Alonso, dans son utilisation, même s'il disait en conf, je suis prêt à jouer latéral droit, c'est pas un problème, je peux le faire aussi. Il a toujours été nickel dans sa déclaration, Valverde. Après, en coulisses, c'est être différent. Alors évidemment, on va dire qu'on en parle quasiment tous les lundis soirs, mais là, ce que je vois sur les réseaux concernant Kylian Mbappé, nous on a du mal à décrypter ça, en fait, hein, depuis la France. On sait qu'il y a une sorte d'obsession Mbappé en France à distance. Elle existait déjà quand il était au PSG, sa fin de carrière à Paris. Est-ce que c'est la même désormais à Madrid aussi? Est-ce qu'il y a une sorte de phénomène populaire, parfois populiste, anti-Mbappé, qui réclame des sanctions, un départ? Mbappé ne peut plus porter le maillot du Real Madrid après ses tweets, après ses posts Insta, notamment le dernier, le 2, qui poste à 2-0 à la Madrid alors que le Real est mené 2-0. Celui d'aujourd'hui en salle de musculation. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse aujourd'hui, cet homme-là est devenu l'ennemi public numéro 1. Est-ce que c'est une réalité en Espagne?
Oui, j'ai passé un an et demi, c'est-à-dire du moment où je suis arrivé en Espagne jusqu'à très récemment, à dire que la réalité et l'image de Kylian Mbappé étaient très différentes en Espagne et en France. Mais aujourd'hui, je suis obligé de constater que les critiques qu'il avait en France, il les a en Espagne. Les campagnes...
C'est-à-dire sur le jeu, sur les efforts?
Sur le jeu,
sur la communication efforts, aussi?
Sur la communication, sur l'attitude, surtout. Surtout sur le quotidien dans le vestiaire. Malheureusement, aujourd'hui, les critiques, elles sont partout. Les campagnes médiatiques, les campagnes sur les réseaux sociaux, tout est très similaire, finalement.
Tu peux faire la différence entre le vrai et le faux. Cet homme-là est scruté en permanence. C'est écrit dans les médias espagnols ou sur les réseaux, bien sûr. C'est parfois aussi à prendre avec des pincettes. Mm-hmm. On raconte des choses. Dès qu'il fait quelque chose dans le vestiaire, c'est interprété. Quand il sort du terrain, c'est parce qu'il veut... Ou quand il quitte l'entraînement samedi, c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas titulaire contre le Barça. Quel est le vrai du faux là-dedans? C'est très compliqué de trouver la frontière.
Je pense que même lui est perdu dans les critiques qui comptent et les critiques qui ne comptent pas. Et je pense, ma théorie, c'est que le joueur est rentré dans un mindset où il se dit, en fait, quoi que je fasse, je vais être critiqué. Les gens me reprochent tout et n'importe quoi et très souvent des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et donc lui maintenant, et j'imagine à quel point ça doit être compliqué. Je pense qu'il a une déconnexion par rapport à la réalité et par rapport aux critiques. Et je pense qu'il a une certaine difficulté à dissocier les critiques qui sont justifiées et les critiques qui ne le sont pas. Et c'est pour ça que il va faire des coups de communication qui sont complètement ratés, parce que après, quand on va lui dire mais c'est pas intelligent de mettre une story à 2-0 quand ton équipe perd, ou c'est pas intelligent de faire une panenka face à Brahim Diaz, je pense que dans sa tête c'est très difficile pour lui de dissocier les critiques qui sont justifiées, les critiques qui sont pas justifiées, parce que ça devient un truc de se dire mais en fait quoi qu'il arrive je vais être critiqué, donc tout ça n'a aucune valeur. Mais la réalité, c'est que en étant autant dissocié de la réalité, autant loin de la réalité, je vais citer Luis Enrique, peut-être son ancien entraîneur. C'est catastrophique. La communication de Kylian Mbappé, elle est devenue catastrophique.
Ce qui est dingue, c'est qu'on se dit, mais il doit être conseillé, ce garçon. L'impression qu'il prend son téléphone comme n'importe quel kidam, et qu'il décide de poster sur Instagram. Bon, bref, bien sûr, c'est un sujet. Vous en pensez quoi, les amis, vous? C'est quoi? Je vous sens souvent là-dessus également le lundi soir. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Daniele, également. Ton regard là-dessus sur la communication de Kylian Mbappé, le joueur, les efforts défensifs, on en a beaucoup parlé. C'est pas le premier. En revanche, sur la communication, est-ce que toi, t'as été un peu surpris par sa façon d'exister sur les réseaux, quoi?
Bah oui, moi, je regarderais un peu les résultats. Il est pas, en étant un des meilleurs footballeurs au monde, un des meilleurs footballeurs en France. Moi, je trouve que il a pas beaucoup de succès médiatiquement. C'est-à-dire, il est pas très aimé, il est pas attachant, il est pas.
T'as raison, c'est le plus grand écart de l'histoire du foot, peut-être entre l'efficacité sur le terrain, offensive en tout cas, et l'image et la popularité.
Ah, mais je pense aussi que dans sa popularité, il y a quelque chose qui a changé. C'est que pourquoi on a tous adoré regarder Kylian Mbappé sur les premières années de sa carrière, c'est parce que il était fabuleux à voir jouer et t'avais envie de, dès qu'il touchait le ballon, tu disais qu'est-ce qu'il va faire. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il marque énormément, c'est souvent très bon à voir, mais pas tout le temps. Mais de manière générale, c'est quand même moins spectaculaire, moins emballant. Et aujourd'hui, t'allumes beaucoup moins ta télé pour regarder Kylian Mbappé jouer. Et ça, c'est une réalité. Alors que au début de sa carrière, mais c'était un régal de regarder Kylian Mbappé jouer. Alors évidemment, le jeu peut évoluer, comme il a évolué dans la carrière de Cristiano Ronaldo et d'autres joueurs. Mais je pense aussi que, ne serait-ce que son style de jeu, est un petit peu moins attachant aujourd'hui.
Bon. Voilà, Polo, je ne sais pas ce que tu en penses, hein. C'est un personnage qui ne t'intéresse pas, Kylian Mbappé.
Ah, c'est pas Kylian Mbappé qui ne m'intéresse pas, c'est ce qui est devenu la communication des joueurs qui ne m'intéresse pas. C'est un non-événement pour moi. Mm-hmm.
Et Julien, pareil, tu en as parlé longuement déjà, Kylian Mbappé, le poste facile ou à côté de la plaque. Ouais, Daniel.
Non, mais tu sais, aujourd'hui, j'en ai parlé avec un fighter de MMA, parce que si dans les MMA, il y a l'histoire de...
Tu parles des fighters de MMA, toi, d'accord, Daniel, c'est intéressant.
Oui, bah,
avant ou après avoir mangé du fenouil?
J'ai écrit un livre même. Mais on parlait du fait, voilà, les trash talking, le fait de devoir être toujours sur les réseaux. Et lui, il est un peu à ancienne manière. Il dit qu'il aime pas ça. Ça a même ruiné le sport. Mais il faut dire aussi, c'est des choses assez nouvelles dans l'histoire du monde, dans l'histoire du sport. 2007, ça n'existait pas. Il y a des champions très aimés en 2007. Ça, c'est les premières générations qui doivent gérer ça. Ça doit pas être facile. Et pour Mbappé, il y a les réseaux où il est très populaire. Il y a son pouvoir politique, on va dire. C'est-à-dire, mettez-vous dans la peau d'un gars qui voulait quitter son équipe de cœur et il y a les présidents de la République qui allaient le voir. Non, mais ça doit changer ta mentalité, ça doit changer ton caractère.
Mais donc c'est comme ça que tu deviens déconnecté aussi, hein. C'est très, très compliqué si on se met à sa place de rester.
Et après, ils sont protégés. Après, ils sont toujours protégés. Ils sont toujours effacés.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire.
C'est la première fois, pardon.
Les joueurs, non mais c'est les moyens, mais ce que font c'est la forme qui a changé, le fond n'a jamais changé. Les joueurs de football ont toujours utilisé, par exemple, dans les années 70-80, les médias pour faire leur propre image. Ils envoyaient des infos. Là, moi, je suis pas d'accord. Là, si on me dit que Valverde doit être viré, H24, ça c'est la débilité de la société actuelle. Je veux dire, si les mecs veulent aller sur TikTok, c'est leur problème. C'est faut aussi être. Je veux dire, faut voir à quel public.
Non, c'est pas obligé. Personne n'est obligé. TikTok et sur Twitch.
Ils vont perdre des possibilités. Ils vont perdre de l'argent.
Non.
Il a des contrats au Lycée. Il a des contrats avec.
Olysée,
mais pas sur les réseaux, par exemple.
T'es
pas forcé de faire ce que fait tout le monde, toute la crétinerie actuelle, pour exister. T'es pas forcé d'avoir une communication qui est à direction de gamins qui ont 10 ans et qui comprennent rien à la vie. Dire c'est ça, c'est ce que devenu le Real Madrid au passage.
Bien sûr.
Donc faut pas s'étonner derrière. Mais moi là où je suis pas d'accord avec toi, c'est juste la forme qui a changé, mais le fond. Les journalistes, les joueurs ont toujours utilisé les médias, notamment pour leur propre image, pour balancer tel truc. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Edgar tout à l'heure sur c'est le capitaine, il a pas le droit d'être coin d'un coach. Mais combien de capitaines au Bayern ont fait virer les coachs? Thomas Müller en premier.
Quand tu fais le bilan de sa saison.
Mais c'est pas ça. La question, c'est est-ce derrière, qu'un capitaine ou un capitaine en second peut faire virer un coach? Mais c'est l'histoire du football. On peut pas, c'est de la.
Moi j'ai entendu
ce que tu m'as dit, c'est de la morale. Ce que tu m'as dit, c'est de la moraline. C'est-à-dire, c'est pas ça l'histoire du foot.
Non, mais par
l'histoire du foot, c'est tous les coachs.
Comportements qu'il y a eu cette saison, parce que c'est l'histoire du foot.
La question, c'est le capitaine
a-t-il un devoir d'exemplarité
dans une saison également? Il peut effectivement utiliser son pouvoir pour faire virer un coach. C'est arrivé, l'histoire regorge d'exemples.
Demande à Angelotti.
Moi, je l'ai vécu à Nantes avec Mickaël Landreau qui avait viré Loïc Abiss tout seul, quasiment. Voilà, ça, ça arrive. C'est aussi parfois la responsabilité des capitaines.
Mais la raison aussi, pour terminer sur Valverde, pourquoi je le pointe lui aussi du doigt, et pourquoi je dis que lui, ça peut être l'un des premiers noms à partir, ou en tout cas que moi je ferais partir, c'est aussi, il faut être 100% honnête, parce qu'il est beaucoup plus facile à vendre que d'autres. Et que Valverde, aujourd'hui, je suis sûr qu'il aurait énormément de prétendants. Il a une belle valeur marchande, mais il est quand même plus simple à céder qu'un Bellingham ou qu'un Vinicius. Et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il mérite nécessairement de partir. Ça dépend comment on voit la chose. En tout cas, va falloir faire des choix au niveau de la direction. Mais Valverde, il y a aucune raison de penser que demain tu pourrais pas le vendre et te faire une vraie plus-value sur lui.
Bon, voilà pour le Real, les amis. Tiens, troisième minute musicale de la soirée. Elle est allemande. On envoie la musique, Polo.
Volke Chapete, je prononce correctement. Daniele, évidemment, les Noces de Figaro, vous qui savez. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? C'est que Leipzig a validé sa troisième place cette saison et donc est de retour en Ligue des Champions. Et à nouveau est ressorti le débat. Qu'est-ce que c'est que le club de Leipzig en Allemagne? Est-ce que c'est un club qui est détesté, où il y a de la haine qui est autour de lui, ou c'est une formidable usine à talents? Et donc en fait, ce qui sort en Allemagne après cette troisième place qui était nécessaire, parce que rappelons qu'ils n'étaient pas en Europe cette année, est-ce que Oliver Werner avait la carrière pour aller chercher une place en Ligue des Champions, c'est qu'en fait on se rend compte qu'au-delà de ça, l'image du RB Leipzig, au-delà de tout ce que disent certains scientifiques ou sociologues qui travaillent sur l'image des clubs allemands, etc., dans la société allemande, eh ben tu as toujours une forme de barrière. Mais moi, cette barrière, elle m'intéresse parce qu'on dit oui, c'est un club qui a été construit à coups de millions, c'est un club étranger aussi, hein, d'ailleurs, c'est parce que c'est évidemment la Galaxie Red Bull, donc autrichien. Et ce qui est intéressant, c'est toujours de dire mais qui est contre le RB Leipzig? C'est-à-dire que quand je vous parle de ce qui s'est passé dans les années 2010, cette fameuse révolution du foot allemand qui était nécessaire, la Galaxie Red Bull en a fait partie. C'est-à-dire que si aujourd'hui le football allemand est rayonnant financièrement, se fait un championnat où il y a des buts tout le temps, etc., c'est parce qu'ils ont utilisé cette voie. Et ceux qui sont toujours contre, c'est qui est-ce qu'on interroge, par exemple, sur l'image du RB Leipzig? On interroge les ultras en général. Donc les ultras, moi j'aime bien regarder ce qu'ils proposent pour améliorer le football, c'est toujours intéressant parce qu'ils ont à peu près 25 ans de retard sur toutes les analyses, c'est-à-dire ils sont encore au niveau de dire il faudrait qu'on ait une répartition égalitaire des droits télé nationaux en Bundesliga. Ça va vachement faire bouger l'oreille du Bayern Munich qui ses droits nationaux c'est 8%. Donc ça ne change strictement rien à l'ensemble de son chiffre d'affaires, Ça ne change strictement rien à ce genre avec ce genre de proposition, et de voir pourquoi est-ce qu'on n'aime pas le RB Leipzig, ou supposé, puisque s'il n'est pas un club aimé en Allemagne, c'est un club qui a acquis une forme de respect par rapport à ce qu'il propose. Mmh. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que pendant des années, le football est-allemand n'était plus sur la carte de l'Europe. Jusqu'à preuve de contraire, Leipzig, c'est pas du côté de Stuttgart, c'est encore à l'est de l'Allemagne. Et la troisième chose qui me semble très importante, c'est que la seule chose qu'on peut critiquer à Red Bull, c'est est-ce que vous voulez aller chercher le Bayern et toujours investir, toujours plus. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse dans cette histoire.
Mais on n'a pas la réponse, juste pas la réponse sur là pour l'instant, mon cher Polo. C'est pas l'idée.
Mais
quoi.
Par contre, ce que tout le monde dit, c'est qu'à l'époque où il y avait le Lokomotiv Leipzig qui jouait au Central Stadion et tout ça, il y avait 20 000 spectateurs de moyenne en Allemagne. Il y en a plus de 40 000 aujourd'hui à Leipzig. Donc moi, je veux bien qu'on critique systématiquement Leipzig sur ce qu'ils proposent, pourquoi, ou leur modèle, qui au passage, on pourrait critiquer dans ces conditions Leverkusen, Hoffenheim, etc. Donc voilà. Parce que j'ai adoré le fait que ce débat revienne systématiquement dès que Leipzig a validé son retour en Ligue des Champions.
Bon, on nous dit sur le chat, est-ce que Polo va parler de Schalke qui remonte? Tu l'as déjà fait, je pense, mon cher Polo.
La semaine dernière.
Tu l'as fait lundi dernier, exactement. Schalke 04 qui remonte au Bundesliga. Ceux qui ont pas vu les images de la montée, c'était magnifique, hein, ce stade qui s'embrasse, bien sûr. Énorme club allemand de retour en Bundesliga. Vous pouvez écouter le podcast de la semaine dernière, d'ailleurs. Il est toujours disponible, les drôles de dames.